RMC.
Ils doivent faire à peu près le travail des milieux excentriques et comme là il n'y en a pas, ils doivent le faire, non?
J'espère que la roue tourne, va vite tourner.
L'After, jusqu'à 23h.
Nous sommes d'excellents skieurs, mais on peut être aussi de temps à autre de très très bons footballeurs.
Jean-Christophe Drouet.
Hey, salut à tous, c'est l'After, la seule émission au monde que vous pouvez suivre à la radio sur RMC, à la télé sur BFM Sport ou encore sur notre site internet rmcsport.fr. L'After, tous les soirs de 21h à 23h au mois de juillet. Et ce soir, pour vous régaler, le maigre de l'After qui préfère le tofu à une bonne raclette, Jonathan McCardy. Salut Jonathan.
Salut JC, salut Samy.
T'as mangé quoi à midi?
Du poulet et des lentilles. Ouais. Ce soir, du poulet et des lentilles.
Lentilles corail, je crois.
Ouais, parce que c'est
selon mes informations.
L'index glycémique est plus bas, donc ça permet de moins faire de graisse et de faire plus de muscles.
Tu es complètement taré, quand même. Hein. Mais t'as raison, les lentilles corail, c'est très bon. Avec du lait de coco, c'est vraiment exceptionnel.
Oui, mais c'est un peu gras, le lait de coco.
Oh non, arrête, on peut rien. Moi, je ne viendrai jamais manger chez toi.
J'essaie de trouver un combat pour la rentrée, donc j'essaie de, tu vois, de rester.
Je comprends, oui, ok. Si c'est pour un combat, je comprends.
Je peux m'entraîner avec toi, d'ailleurs, si tu veux.
Ah bah, franchement, avec grand plaisir.
Bah on essaye.
Est-ce que tu penses que je suis bon à la boxe?
Non, je pense que ça peut être marrant.
Et bah tu as bien raison. Bravo Jonathan McCardy. Il fait un peu peur, évidemment, mais s'il se prépare, on viendra manger avec lui un petit peu plus tard, à Noël, comme ça tu nous feras de bonnes choses.
Oui, on fera du bœuf à l'huile d'olive, parce que c'est les fêtes, avec des haricots.
Du bœuf à l'huile d'olive avec des haricots, je retire cette invitation tout de suite.
Mais si, une fois par semaine. Et puis un petit verre de whisky... pas mal aussi.
Ok, à consommer évidemment avec modération.
Oui, bien sûr.
La seule chose que je peux vous dire, c'est qu'on va peut-être pas parler foot ce soir, peut-être parler culinaire. Ça peut nous plaire, ça peut nous intéresser. Venez nous en parler, évidemment.
C'est Maïté ?
C'est l'After. Oui, j'ai hyper qui fait Maïté.
Ouais, non, c'était un peu loupé.
Le clubbeur de l'After qui préfère manger un bon grec chez JC. Tu vois, j'arrive pas à le faire. Le clubbeur de l'After qui préfère manger un bon grec chez moi plutôt que d'aller manger du tofu et du boulgour chez Jonathan, c'est Samy Traoré. Salut Samy.
Salut monsieur.
Salut.
T'es un petit peu choqué par ce que vient de dire Jonathan?
Non, après si...
C'est une philosophie de vie, c'est ça que tu veux nous dire?
Ouais, voilà. Après s'il veut garder cette ligne-là et s'il a dans l'objectif de faire un combat, il n'a pas le choix. Après, comme il se permet un petit excès dans la semaine, ça va.
Bah oui, il faut.
Ouais, j'aimerais relancer le métabolisme. Bah, la prochaine fois, tu nous faudras
ton excès. Tout le cas, je fais le même, des pâtes à la carbonara. Et des vrais, hein. Sans crème fraîche, sans lardon, avec des jeunes
d'œufs, du parmesan à l'italienne.
Et du viande chalet.
On est bien d'accord. Bravo Jonathan, tu es un sacré épicurien. Je sais que tu adores les mots compliqués. Au sommaire ce soir.
Ça.
Ah bah quand c'est fait plus de 4 syllabes, c'est compliqué. Au sommaire ce soir, dans quelques instants, la vie tranchée de Samy Traoré, le mercato du Barça est étrange. Tu nous diras pourquoi. 21h20, la vie tranchée de Jonathan McCardy, la vie tranchée, écrit cette nuit, stop à la dictature du beau jeu. À 21h40, Clément Grenier, nouveau joueur du Stade Rennais, sera notre invité dans l'After. À 22h, nous nous intéresserons au mercato de l'AS Monaco qui a encore passé un cap en termes de recrutement de jeunes. Et puis vous l'avez appris il y a quelques instants, formation RMC Sport, Golovin est sur le point de signer à l'AS Monaco. Bien. Et à 22h20, toutes les autres infos mercato du jour. N'oubliez pas le rendez-vous, appelez-nous au 3216, 22h40. Le quiz, comme d'habitude, ce soir, on vous offre deux places pour le match magnifique de samedi soir, match amical entre Chelsea et l'Inter Milan. Ce sera à Nice, on en reparlera un petit peu plus tard dans cette émission. Appelez-nous au 3216 pour participer. Venez nous interpeller, évidemment, le hashtag RMC Live ou le compte Facebook de l'émission. Deux petites choses à vous donner avant la vie tranchée de Samy Traoré. Tout d'abord, le match nul de l'AS Monaco, on en reparlera à partir de 22h. Match nul de partout face à Bochum, équipe de deuxième division allemande, un doublé de Ronny Lopez. Et puis en ce moment, il y a Olympique de Marseille, Betis Séville. Ça vient tout juste de partir. 2 minutes de jeu, toujours 0-0. C'est vraiment triste le football, toujours 0-0. On en reparlera et on vous donnera évidemment l'évolution du score. Deux minutes de jeu, 0-0, match amical, match moyen. Pour l'instant, j'ai pas vu le match. Mais pour l'instant c'est moyen. Okay.
Non. Pour qui vous prenez de parler de l'Olympique de Marseille comme ça, monsieur?
Je suis un expert du foot.
Parle-nous du t-shirt de Samy pour nos amis qui sont juste en radio.
Ben voilà.
Samy a mis un magnifique t-shirt. T'avais plus de beau t-shirt, Samy ?
C'est pas question de ça. Je pense qu'on parle football. Voilà. Je vous ramène un peu de football un peu. Vestimentairement.
Alors, il a mis le ballon d'or sur. Voilà. À défaut de l'avoir, tu l'as mis sur ton t-shirt.
Non, je pense que. J'espère que.
En strass et paillettes.
J'espère que le petit Kylian Mbappé l'aura. Donc, j'espère lui ramener directement. Voilà. Il est pas mal, non ?
Oui, c'est ça qui te choque. C'est les. Il y a beaucoup de paillettes.
Un peu, ouais.
Je trouve ça très beau, en tout cas.
Merci, c'est gentil.
Menteur.
Attends, toi tu me dis menteur, et dans l'oreillette, on me dit ne ment pas.
Les goûts et les couleurs, messieurs.
Mais non, mais attends, Samy... Ah,
les goûts et les couleurs. On en reparlera dans mon avis tranché, des goûts et des couleurs.
D'accord, tu fais un petit peu de teasing, il n'y a pas de souci. Non, mais moi, Samy, je n'ai rien contre ton t-shirt. Non,
moi,
je pensais pas qu'on pouvait venir en pyjama à l'antenne.
Oh, c'est dur, monsieur. C'est un pyjama? Non, pas du tout. Regardez, c'est un très beau t-shirt. Hein.
Oui, voilà. Il faut aller sur BFM Sport. Voilà la principale, l'une des principales raisons
sur Twitter aussi.
D'avoir BFM Sport.
Je pense
évidemment.
Que moi, il aura un très grand succès.
Ouais.
Vis-à-vis des amateurs de football. Qu'en pensez-vous, monsieur? On verra. On en reparlera.
Okay. Bon, bah, on va parler d'autre chose, si ça vous dérange pas. En tout cas, voilà. OM, Betis, Séville, on suit ça avec, évidemment, impatience et on se délecte de cette rencontre. 3 minutes de jeu, toujours 0-0. C'est bien ce que je disais. L'avis tranché de Samy Traoré, tout de suite.
Ça a surpris Samy quand j'ai appris que Umtiti c'était le beau gosse, son nom.
Pourquoi ça t'a surpris, Samy?
Parce qu'il se fout de lui. Non, tu penses pas?
Ah, mais j'en sais rien.
Bah, pourquoi alors?
Et on met aussi ce petit jingle pour entendre ce rire de Daniel Riolo. C'est vrai qu'il nous manque un peu, rassurez-vous. Il va très vite revenir dans l'after au mois d'août. Samy Traoré, oui. Ton avis tranché, pour toi, le mercato du Barça est un petit peu étrange. Je rappelle que pour l'instant, et c'est le dernier transfert en date, le FC Barcelone a acheté Malcolm à Bordeaux pour 41 millions d'euros. Il y a aussi le jeune milieu brésilien du Grêmio, Arthur, acheté pour 30 millions d'euros plus 9 de bonus, et puis le français Clément Langlais, tout droit venu du FC Séville pour 36 millions d'euros. Pour toi, il est étrange ce mercato. C'est à toi.
Non, pas spécialement ce mercato, mais sur les derniers joueurs qu'ils ont rejoint cette institution qui est Barcelone, il y a eu des complications. Alors, Ousmane Dembélé a fait un forcing pas possible une fois que Barcelone était désireux de l'avoir.
Il a fait la grève de l'entraînement.
Je rentrerai pas dans tous ces détails. Après, c'est vrai qu'il y a eu problème. Après, Coutinho, je pense qu'il y a eu problème aussi avec Liverpool. Là, Malcolm, dernièrement, qui donne son accord à la Roma, et la situation très compliquée. Je sais pas ce qui se passe. Dernier changement de cap une fois que le Barcelone se rentre dans la course. Après, c'est vrai que pour n'importe quel joueur, une fois que le FC Barcelone rentre dans une course,
bah oui, c'est ce que j'allais te répondre.
Ça devient compliqué. Mais je pense qu'avec ce qu'ils ont amassé comme respect depuis des années, c'est un mastodonte du football mondial. Cette institution est magnifique. Quand on parle de Barcelone, c'est beau, ça fait rêver. Comme il l'a dit Malcolm, c'est un rêve d'enfant. Mais à côté de ça, il y a toujours des problèmes. Ce qui me pose problème, encore une nouvelle fois, c'est que il pourrait y avoir des transferts dans la légalité, dans le propre, comme tout le monde le fait, comme beaucoup de clubs le font. Et là, ça se fait pas correctement. Je suis désolé. Après, ça ternit leur image, un petit peu, logiquement.
Ça ternit l'image. On rappelle aussi que le FC Barcelone n'avait pas du tout été content que le Paris Saint-Germain paye la clause libératoire. Et beaucoup de clubs espagnols étaient venus à la rescousse un petit peu du FC Barcelone. Mais pour toi aussi, ils font tourner un petit peu la tête des joueurs.
Ben forcément. Forcément, quand le FC Barcelone, l'un des plus beaux clubs au monde, vous demande, quel que soit le club à côté, ça devient compliqué.
Bien sûr.
Tu en penses quoi, Jonathan? Et appelez-nous, évidemment, supporters du FC Barcelone.
Je pense qu'il y a eu des problèmes, il y a eu un problème avec Malcolm. Là, c'est vrai que c'était pas forcément ultra correct ce qui s'est passé. On en a beaucoup parlé hier, mais bon, le reste des transferts, ça a quand même été relativement propre, si ce n'est celui de Coutinho. Tu as raison, qui a été un feuilleton qu'on
même
a suivi avec beaucoup d'attention.
Même le départ Paulinho, le coach n'est pas d'accord. Voilà. Il y a pas Paulinho qui part.
C'est bizarre. Il achète en Chine, il revend en Chine. C'est vrai que c'est bizarre. Par contre, là où je vais encore plus dans ton sens, c'est que faut dire que c'est une équipe qui a tellement gagné, qui nous a tellement fait rêver, et je pense qu'ils ont eu un peu de mal, même si c'est vrai qu'ils ont encore gagné la Ligue des Champions il y a quelques saisons, je pense qu'ils ont eu un peu de mal à tourner la page. Il y avait tellement de joueurs installés, Iniesta, Xavi, Messi, Luis Suarez, que j'ai l'impression que c'est une équipe qui, en termes de recrutement, se cherche un peu. Quand on regarde les joueurs qui sont arrivés récemment, ça fait longtemps, on en parlait ensemble, Samy, avant de commencer l'émission, ça fait longtemps qu'il n'y a pas eu une vraie réussite, si ce n'est Luis Suarez et Ivan Rakitic. Quand on fait une liste de noms comme ça, je sais pas moi, Alcacer, Arda Turan, Yerimina, c'est des bons joueurs, mais ils n'ont pas eu la... soit ils n'ont pas eu leur chance, soit ça n'a pas marché. Le point d'orgue, c'est quand même le Portugais André Gomes qui sort en pleurs après une saison catastrophique alors qu'il arrivait au relais de son titre de champion d'Europe. Mais il y a des choix, il y a des joueurs qui arrivent, qui sont bons, mais qui ne confirment pas. Coutinho aussi, on pourrait le rajouter parce qu'il a pour l'instant pas montré l'étendue de son talent. Et il y a des choix qui sont quand même un peu curieux. Je pense notamment à Lucas Digne. Là, Malcolm, ça me semble quand même un petit peu bizarre. Donc c'est vrai qu'en termes de recrutement, j'ai l'impression, plus généralement, que c'est un club qui a beaucoup gagné et qui cherche à se réinventer. Et qui est dans une phase un petit peu pas de transition ou presque. On sait qu'ils ont viré leur directeur du football. Je sais plus quel titre il avait exactement, mais celui qui s'occupait des équipes de jeunes, d'implanter le style Barça dans ses équipes de jeunes. Xavi l'a longuement déploré du Qatar en disant que c'était, on savait pas vraiment. Il disait si lui part, bah quelle est notre identité. Et je pense vraiment que ce club est dans cette phase là où après avoir beaucoup gagné avec un style qui était très prégnant, qui imprégnait toutes les structures du club, dès l'équipe professionnelle jusqu'aux équipes de jeunes, c'est un club qui cherche à se réinventer. Donc j'attends de voir ce que ça a donné cette saison.
Et on rappelle que c'est un Français désormais qui gère un petit peu ce recrutement.
Eric Abidal.
Nouveau directeur sportif depuis le mois de juin, Eric Abidal. Exactement. Pour l'instant, ça te séduit pas. C'est ça que tu nous dis.
Pour l'instant, je demande à voir. La base de l'équipe est encore excellente. Il y a des joueurs qu'il va falloir commencer à envisager de remplacer. Lionel Messi ne sera pas éternel, Luis Suarez ne sera pas éternel, et c'est un petit peu le voilà. Je pense que j'attends de voir la manière dont ils vont le gérer.
Même piqué derrière.
Après, je suis content de l'arrivée de Clément Lenglet. Je pense qu'il a tout pour réussir dans ce club-là. C'est quand même un défenseur extraordinaire. Qui a un potentiel extraordinaire et plus j'ai l'impression que plus c'est difficile et plus il est bon. Donc j'attends de voir ce que ça va donner. Ça va nous intéresser aussi pour notre équipe de France. J'attends de voir ce que Dembélé et Coutinho vont faire après un temps d'adaptation. Il y a des doutes, j'ai des doutes, mais je n'ai aucun doute sur le fait que ça sera une équipe encore compétitive. Là où les doutes que j'ai, c'est quelle sera la prochaine phase pour remplacer les joueurs importants que sont Piqué, Umtiti, Messi et Suarez.
Ok, pour l'instant les joueurs de complément, pourquoi pas, on attend de voir, mais quand il faudra prendre de grandes stars. Mais si on revient à l'avis et à l'angle choisi par Sami Traoré, c'est quand le Barça appelle, le joueur fait volte-face ou fait des pieds et des mains pour y aller. Mais en même temps, est-ce que c'est que la faute du Barça?
Non, mais aussi, j'y sais, que si t'es avec une fille et que Miss Monde t'appelle, tu fais volte-face aussi, quoi. Tu vois, et qu'est-ce qu'il y a de mieux que le Barça? Le Barça, c'est Miss Monde, hein. C'est difficile de pas avoir la tête qui tourne quand le Barça t'appelle.
Je vous propose d'écouter Malcolm. Non, j'étais encore sur ta comparaison avec Miss Monde. Je l'étais en train de me poser la question.
Ouais, ça tu connais pas.
Hein. Tu serais surpris. Truc qui veut rien dire, tu serais surpris. Je vous propose d'écouter Malcolm, justement, qui est très heureux de porter ce maillot du FC Barcelone.
Je me sens une sensation unique.
Je ressens un sentiment unique, de la joie. Je réalise un rêve d'être dans le meilleur club du monde et j'espère pouvoir donner beaucoup de joie aux supporters.
Meilleur club du monde et j'espère donner beaucoup d'allégresse à cette torcida.
Benita nous appelle au 32-16, supporter du FC Barcelone. Salut Benita.
Bonjour à tous.
Salut Benita.
Je vais essayer d'être clair parce que j'ai beaucoup de choses à dire. Dites-moi de la fermer si vous pensez que je parle beaucoup.
On peut le dire comme ça?
Oui.
Ok.
Alors premièrement, je suis assez d'accord avec Jonathan, même si j'ai pas le vocabulaire.
Ferme-la. Non, c'est juste pour savoir si ça marchait.
Je suis d'accord avec Jonathan, même si j'ai pas les mots, le vocabulaire que lui j'emploie, mais dans le sens où le Barça, ils sont assez très famille. C'est-à-dire qu'ils ont une identité, ils sont attachés à leurs joueurs, ils ont leur personnalité, et ils ont du mal un petit peu à s'ouvrir. C'est-à-dire que, je vais pas dire qu'ils sont racistes, parce que ça serait faux, mais dans le sens où, voilà, ils ont leur habitude, ils ont leurs joueurs, ils ont leur mode de jeu, ils ont leur... Et moi, j'aimerais qu'ils se rendent compte de ce qui se fait ailleurs, qu'ils se disent que certaines choses pourraient être modifiées et certaines choses pourraient être améliorées, voire totalement arrêtées. Je vais vous donner un exemple tout bête. Et ça c'est pour ça que le Real, par exemple, je les déteste, mais j'aime ça. Quand CR7 il fait un mauvais match, Messi fait un match pourri, mais faut arrêter. Des fois, faut arrêter. J'adore Messi. Je lui voue une admiration sans borne. Mais vous avez vu quand on a perdu contre la Roma, il est revenu au Barça, on dirait qu'il s'était absolument rien passé. Non, tu peux pas faire un bon match, tu peux pas jouer comme ça, faire une faute professionnelle, et parce que t'es Messi, ça y est, on t'appelle.
Il a tellement gagné. Vous avez tellement gagné comme ça, Benita. Je vais juste, je me permets une petite remarque. C'est que je pense que je suis tout à fait d'accord avec toi. C'est un club qui fonctionne d'une manière endogène depuis des années. Ils ont beaucoup gagné en fonctionnant comme ça. Et il y a un problème, moi, je pense qu'il faut vraiment soulever quand on parle du Barça, c'est que ça fait quand même un moment que la Masia n'a pas fourni un grand talent.
Ouais, ça, c'est vrai.
C'est quand même un problème quand tu regardes les succès, c'était Xavi, c'était Iniesta, c'était Busquets.
Ils ont eu une interdiction, ils ont eu un problème avec la Masia justement en 2013, un truc comme ça.
Oui, et il y avait d'ailleurs un petit joueur qui était reparti à Boca.
Mais il y a pas après, c'est même 10 joueurs qui étaient obligés de faire partir de la Masia parce qu'ils avaient fait signer des
Lamela, il y avait Lamela dans le lot.
Il y avait 10 joueurs qui étaient obligés de faire partir. 10 mineurs. Mm-hmm. Donc forcément
Donc ça c'est le premier point. Le deuxième point, ce que j'aimerais aussi dire, c'est que en termes de recrutement, comme je vais essayer de me répéter comme toi, ils savent pas ce qu'ils veulent faire. Soit on reste dans ce qu'on sait faire, dans ce qu'on aime faire et dans ce qui fait peur aux autres, ou soit on se rend compte que ça fait plus vraiment peur justement, que les gens ils ont appris à jouer contre nous, que le Barça on ne tremble plus maintenant. Aujourd'hui quand on joue contre le Barça on se dit on va tout faire pour gagner, alors qu'avant c'était le Barça comment on va faire.
C'est pour ça que Valverde a quand même un petit peu changé le style de l'équipe cette année. Alors jusqu'à la mi-saison il joue en 4-4-2, après il est repassé en 4-3-3, après c'est vrai il y a quand même des quelques nuances. C'est un jeu qui est quand même un peu plus direct qu'avant, un peu plus rythmé, et je pense que Valverde, vu ce qu'il a montré auparavant et sur sa première saison au Barça, je suis pas trop inquiet parce que je me dis que c'est un super entraîneur et qui va continuer à entreprendre cette espèce de métamorphose qui est nécessaire.
Si on prend des points précis, Benita, sur le recrutement cette saison du FC Barcelone, note de 1 à 10, comme ça toi supporter du Barça, toi qui vois tous les matchs du Barça, Malcolm, 1 à 10 sur le recrutement de Malcolm.
Est-ce qu'il voit tous les matchs de Bordeaux?
1 étant j'en veux absolument pas, 10 étant c'est génial.
C'est l'amour.
6,5.
Ok, 6,5. Ouais. Donc ça va, c'est correct pour un joueur
Clément
qui sera remplaçant.
Clément Longlet.
8.
Ouais.
Ok, et Arthur?
On connaît pas. On va être honnête.
Ouais. Moi je mettrais 5, mais à réfléchir. Genre 5. 5, voilà. Je sais pas comment vous expliquer.
5, tu sais pas, t'attends de voir. Voilà.
Non, mais est-ce que quelque part, et Samy Traoré pourra nous répondre, mais est-ce que ce qui te gêne dans ce qui vient d'arriver avec le transfert de Malcolm, c'est que l'option A, c'était Antoine Griezmann. L'option B, c'était Willian. Et on passe à l'option C, qui est vraiment l'option C, c'est Malcolm. Mais est-ce que c'est ça qui te gêne, c'est que le FC Barcelone n'a pas réussi à attirer une grande star?
Je vais essayer d'être... Permettez-moi, vous me censurez si c'est un petit peu vulgaire. J'ai l'impression qu'on se fait un peu enfler.
Tu peux le dire.
Dans le sens où, quand un faux club qui vole 3 Ligues des Champions d'affilée, qui se permet d'avoir qui ils veulent, comme ils veulent, quand ils veulent, je me dis qu'on est quand même le FC Barcelone, on a un pouvoir... On a de l'argent.
Non, mais le faux club que tu es en train de nommer, c'est l'équivalent de Barcelone.
Non, c'est faux. Et ça
parce que tu es supporter de Barcelone, c'est pour ça.
Oui. Non, mais voilà, je sais pertinemment
que ça veut dire que le club qui vient en face de Barcelone, qui est le Real de Madrid, forcément, tu te poses la question, c'est du 50-50. Après, c'est un choix de vie. Hein.
Non, ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a un peu de mauvaise foi.
D'ailleurs, tu l'as eu à le faire, ce choix, Samy, et tu es resté à Paris.
Ouais.
Mais attendez, Benita.
Je serais parti.
Ce que je veux dire par là, Jonathan, c'est que je pense que t'as remarqué la mauvaise foi. Je sais que le Real c'est un grand club et que voilà. Mais ce que je veux dire par là, c'est que eux ils arrivent à avoir qui ils veulent. C'est-à-dire que quand ils demandent quelque chose, c'est stable.
Je pense qu'ils font plus d'efforts parce qu'ils ont en eux plus la culture justement d'aller chercher des grands stars à l'extérieur. Et le Barça a quand même plus dans son histoire, dans sa construction identitaire, de s'appuyer, du moins sur les dernières années, de s'appuyer sur des produits maison. Et je pense qu'il faut que, soit tu résous le problème de la Masia, parce qu'encore une fois, j'insiste, ça fait des années qu'il n'y a pas un très bon joueur qui est sorti de la Masia. Il y a eu quelques petites starlettes, Mounir et compagnie, mais ça a jamais été des mecs qui cassaient des baraques. Le joueur qui était bon, j'ai des problèmes de mémoire, qui est parti au Bayern. Thiago, c'est ça?
Thiago, il
était formé au Barça, ils ont pas su le renier. Je pense qu'il faut vraiment régler ce problème-là, ou alors vraiment se mettre dans la même optique que le Real Madrid et aller chercher à l'extérieur et faire des pieds et des mains pour avoir les grandes stars.
Deux dernières choses, si vous me permettez, s'il vous plaît, rapidement. La première chose, Paulinho, reviens, s'il te plaît. Paulinho.
Je crois que c'est foutu.
Ouais, c'est foutu. Les gens se moquaient quand il arrivait, mais il a rendu fier service l'année dernière.
Oui, Paulinho, il y a un truc que vous allez peut-être vous foutre de moi, mais peut-être. Gérard Deulofeu, je peux vous assurer qu'il aurait dû totalement rester.
Non, Benita.
Je vous dis pourquoi.
Je trouve des qualités. Hein.
Je peux vous dire pourquoi.
Des percussions.
Ok.
Attends, Benita, vas-y.
Ok, devant le but, c'était un Cavani. C'est-à-dire qu'il ratait beaucoup.
Bah, si dans le but, c'était un Cavani,
ça, c'est pas beau. Ça, c'est pas beau. Non, pas mal, censuré, hein. C'est pas beau. Tu touches pas.
C'est un buteur, Cavani. Enfin, quand je vous dis ça, dans le sens, il devait en danger beaucoup. Mais vers la fin, il commençait vraiment à s'imprégner. Je sais pas si vous voyez, il était là, il allait vite. Il se créait des occasions. Je peux vous assurer, on aurait dû faire travailler ce joueur. Oui, j'étais pas convaincu et j'étais le premier à le critiquer.
C'est un jeune, problème d'intelligence de jeu.
Mais ça
serait
aussi,
que ça, pourquoi on est déplacement, c'est dit oui, après, mais je pense pas que le Barça ait le temps de faire travailler
les joueurs, tu vois, le FC Barcelone a besoin de joueurs déjà prêts.
Ils ont essayé, ils l'ont envoyé en prêt, ils l'ont envoyé après au Milan, après ils l'ont racheté. Je pense qu'il a quand même
quand il a récupéré du Milan, il a été bon,
il était correct, moyen, mais
bon, merci beaucoup en tout cas, Benita, pour ton avis au 32-16 et n'oublie pas de la fermer.
Hein. Non, il nous appelle souvent ça, Benita. Ciao, Benita.
Je blague, il m'a ouvert la porte, évidemment.
Il n'y a pas de souci.
À bientôt, Benita. À bientôt. Et merci d'être fidèle à l'after. Ferguson nous appelle au 32-16. Salut Ferguson, rassure-moi, c'est pas ton vrai prénom.
Bonsoir à tous. Non, c'est pas mon vrai prénom, c'est mon surnom.
D'accord.
Qui date de plusieurs années déjà, parce que je suis entraîneur de foot et que mes petites ressemblances avec le
célèbre coach écossais. On va t'appeler Sir Alex, alors.
D'accord, mais t'as pas le teint rougeau.
Non, pas du tout. C'est pas lié au vin.
Bon, bah, tout va bien. Dis-nous tout, toi, le supporter du Barça, est-ce que tu es content du mercato?
Alors, pour l'instant, moi, je suis satisfait du mercato du Barça, comme je disais, à la personne que j'ai en ligne juste avant, parce que déjà le mercato du Real a pas commencé, donc moi ça m'arrange, et plus le Real s'affaiblit et mieux je me sens, donc ça joue aussi dans mon état d'esprit. Simplement par rapport aux recrues, parce que pour l'instant il y a eu Clément Lenglet qui a signé, Arthur et Malcolm, en tout ça doit faire pour tout le package 100 millions d'euros.
Exactement.
Donc, je pense, on s'en sort plutôt bien. Je pense qu'il manque encore un milieu de terrain, vous en avez parlé précédemment, mais un milieu de terrain. Voilà, exactement, style Pjanic, style Thiago Alcantara, un peu box to box et qui
Adrien Rabiot.
Voilà, ce style-là. Moi je suis plus Thiago Alcantara, mais Rabiot pourquoi pas, parce que c'est un jeune et qui pourra apporter. Et moi, ce que je voulais souligner surtout, c'est que bah en fait concrètement, l'arrivée de Malcolm, ça c'est pour jouer ailier droit. Dembélé, il jouera plutôt ailier gauche. Donc moi ça me va, hein. En termes de système de jeu, ça va changer. Le
Coutinho,
traditionnel 4-3-3, je laisse au milieu de terrain. Je laisse au milieu de terrain, je laisse Busquets en sentinelle, je fais Coutinho en pointe gauche, Rakitic qui pourra tourner en pointe droite, et puis devant, on pourra tourner avec des trois devant, Dembélé à gauche, même Messi juste derrière Suarez, et à droite Malcolm, ça peut le faire.
Là, tu joues en 4-3-4. Ouais. En 4-3,
tu as rajouté un joueur là.
C'est sûr que tu allais gagner les matchs comme ça.
Je disais qu'on peut faire tourner, c'est-à-dire
bien sûr, on taquine.
On appelle ça le funny time.
Exactement. Commencez pas, si on parle tactique, vous n'allez pas vous en sortir.
T'es sûr et certain? Est-ce que t'avances là?
On peut essayer.
Quand tu veux. Il y a pas toi qui coach. Il y a pas toi qui coach.
Eh ben, vous savez quoi?
Ah oui, ça coach. Ça bise. Il y a pas toi qui coach.
Je sais, justement, ça m'arrange.
Ah ben, alors quand tu veux, on peut parler.
Ah ben, alors je vous propose, Ferguson, tu viens quand tu veux et pendant la pub, tu affronteras Sami Traoré sur la tactique. Ça vous va?
Avec plaisir.
T'entraînes, Ferguson.
J'entraîne les U19 à Issy-les-Moulineaux.
Ah, c'est pas loin. Bah, t'es à côté de la maison.
Je vois exactement.
Viens, tu marches et tu viens. On t'attend à la pause.
Ouais. Dépêche-toi, on est là jusqu'à 23h. Hein. Faudra pas trop traîner. Est-ce que tu as entendu, Ferguson, l'avis tranché de Sami Traoré qui était pas spécifiquement sur ce mercato-là, mais plus largement sur le mercato où il y a eu quelques joueurs où ça s'est mal passé, ou en tout cas. T'es d'accord ou pas?
Je suis d'accord. En fait, moi, dans l'immédiat, il faut vraiment que le Barça se concentre sur ce mercato-là, parce que l'urgence est, dans l'immédiat, c'est de gagner la Ligue des Champions la prochaine. Faut pas travailler dans 2, 3, 4 ans. Je pense qu'il faut vraiment travailler pour cette année, gagner la Ligue des Champions, récupérer un trophée qui est resté trop longtemps à Madrid ces derniers temps. Donc là, la priorité, c'est vraiment maintenant. Les jeunes, je pense qu'on aura le temps de remplacer Messi, on aura le temps de remplacer Luis Suarez, on aura le temps de remplacer même Gérard Piqué derrière. Mais là, pour l'instant, c'est plutôt cohérent, parce que l'anglais, c'est jeune.
L'anglais, c'est très bon.
Arthur, c'est jeune. Malcolm, c'est jeune. Pour l'instant, je pense que c'est plutôt cohérent. Il manque, pour moi, un cadre. Vraiment un cadre.
Il manque un nom.
Voilà, il manque un nom, un gros nom. C'est pour ça que Thiago Alcantara, je pense que ça aurait été sympa, parce que c'est un ancien joueur formé au club, qui a fait ses gammes du côté du Bayern. Qu'il revienne, ce serait logique. Donc je pense que si j'avais, ici me restait un petit peu de budget, parce que le budget du Barça est un petit peu serré aussi, s'il me restait un petit peu d'argent, je le mettrais sur Thiago.
Ok, bon bah voilà, tu nous as donné ton avis, on en reparlera évidemment du mercato du FC Barcelone. Merci beaucoup Fergui,
à bientôt. Merci à tous, bonne soirée.
Et salut. Tu viens parler tactique quand tu veux évidemment.
Ouais, là, avec plaisir.
Tu nous appelles au 32-16. J'ai quelque chose à vous dire, car nous allons faire le quiz à partir de 22h45. Ça va être génial, deux places à gagner pour le match amical entre Chelsea et l'Inter Milan. Ça va se passer à Nice, samedi 28 juillet. Et à l'occasion du match préparatoire pour l'International Champions Cup entre Chelsea et l'Inter Milan, toute cette semaine, je vous offre vos places pour assister à cette rencontre, que vous soyez plutôt anglais ou italien, allez encourager l'équipe de votre choix à Nice le samedi 28 juillet prochain pour remporter vos places. Envoyez after au 732-16, after au 732-16. Vous pouvez jouer via votre mobile ou alors vous composez tout à l'heure le 32-16 et vous pouvez le gagner lors du quiz avec Jonathan ou avec Samy. A tout de suite sur RMC.
RMC, le super football show, l'after foot, Jean-Christophe Drouet.
21h29, c'est l'after, vous le savez, au mois de juillet, de 21h à 23h avec Jonathan Macardy, pas tous les soirs évidemment, avec Samy Traoré, pas tous les soirs évidemment, et avec moi, pas tous les soirs, évidemment, il y a aussi François Pinet, il y a aussi Christophe Plenet, bref, nous sommes là, le banc, l'arrière-banc, pour vous régaler quand même, et vous faire passer de belles vacances. Appelez-nous au 32-16 évidemment pour réagir à cette émission, le quiz à 22h45, venez jouer avec nous, deux places pour la rencontre Chelsea-Inter Milan, match amical à Nice, samedi 28 juillet, donc dans quelques jours. Sachez que nous allons parler du mercato avec Clément Grenier dans quelques minutes. Lui qui est fraîchement joueur du Stade Rennais à 22h. Nous parlerons de l'AS Monaco qui va certainement engager le Russe, l'une des sensations de ce mondial, le jeune Golovin. Et puis à 22h20, toutes les informations mercato. On vous dira tout dans cette émission. Voilà pourquoi il faut écouter l'after. J'ai fait long, mais je veux croquer un petit peu d'antenne aussi, avant de passer la main, parce que je sais qu'il va être long aussi, parce que c'est mûrement réfléchi, parce qu'il l'a préparé, parce que c'est écrit, tout de suite, c'est la vie tranchée de Jonathan Macardy.
Ça rime. Je pense que pour être entraîneur du Paris Saint-Germain, il faut accepter aujourd'hui de manger quelques couleuvres. Et je pense que lui, c'est pas forcément son profil.
Tu peux pas réussir. Tu peux pas réussir. Si tu acceptes d'avaler des couleuvres, tu ne peux pas réussir.
Pardonnez-moi, François Manardo a mangé ma vanne, mais c'est vrai, on avale des couleuvres. Mais tu as raison de remixer un petit peu, toi qui es épicurien, de remixer un petit peu les expressions. Donc pour toi, ton avis tranché, stop à la dictature du beau jeu. J'ai la sensation que c'est un petit peu philosophique, que l'on pourrait avoir à peu près 4 heures et 2 copies doubles à remplir.
C'est vrai que c'est un sujet qui est compliqué, qui est un thème qui a traité, qui est assez ambitieux, donc on va juste essayer de bien le traiter. Donc c'est vrai qu'après les victoires des Bleus et des Portugais à la Coupe du Monde, respectivement à l'Euro, on a beaucoup entendu de débats au sujet de la notion de beauté. Qu'est-ce que c'est que le beau jeu ? On en a parlé du triomphe du football moche et certains esprits fermés renvoyant forcément le beau jeu à quoi ? Eh ben un jeu d'attaque flamboyant, au tiki-taka et plus largement un style de jeu qui serait purement offensif. Le beau jeu, du coup, on nous le sert un petit peu à toutes les sauces et souvent en alibi d'une posture un peu fumeuse d'esthète du foot. Le foot, ça doit être que de l'attaque, que des belles passes, que des beaux joueurs, que des belles actions, que des beaux dribbles. Mais arrêtez avec votre beau jeu. Franchement, parce que d'abord, ça veut rien dire. Qu'est-ce que c'est que le beau football ? C'est très dur de définir ce que c'est le beau football. Il y a blanc ou noir, noir ou blanc. Une fois n'est pas coutume dans la vie, tout est parfois un petit peu plus compliqué. Il y a pas des choses qui sont belles, il y a pas des choses qui sont moches. Donc ce qu'on va faire ce soir, c'est qu'on va essayer de clarifier un petit peu ce que c'est que la notion de beau football. Pour commencer, je pense qu'il est indispensable de faire l'effort un petit peu barbare de remonter à la définition du concept de beau, du concept de la beauté avant de le rattacher au football et au terrain. Alors, c'est vrai qu'il y a plusieurs définitions qui sont possibles entre les partisans d'un beau qui serait subjectif. Alors le fameux, c'est pour ça que je te dis ça tout à l'heure, le fameux tous les goûts sont dans la nature, et puis les partisans, je l'avoue, je suis un petit peu de ce camp-là, d'une beauté qui serait elle totalement objective avec l'existence d'une beauté universelle symbolisée je sais pas par la fameuse traversée tout en dribble chaloupé de Samy face à Lille. Ça serait peut-être de la beauté objective. Mais la meilleure définition que j'ai trouvée pour définir et pour qualifier le beau, c'est la définition que Charles Baudelaire donne du beau. Qu'est-ce que c'est pour lui le beau ? C'est composé d'un élément qui serait éternel, invariable mélangé avec un élément qui serait plus relatif et circonstanciel. Donc c'est un peu barbare quand on le dit comme ça, mais pour simplifier, qu'est-ce que ça veut dire?
Ah oui,
le beau,
s'il te plaît, aide-nous.
Ça serait un mélange entre une base qui serait indispensable, il y a un socle qui fait que quelque chose est beau, un socle qui doit absolument exister, comme la farine dans le pain ou le gin avec le tonique, par exemple. Et ce socle indispensable, tu dois le marier à une variable qui dépendra en fait du contexte. Qu'est-ce que c'est le contexte? Ben, c'est la culture et la sensibilité de tout un chacun. Donc désolé pour ce passage un petit peu barbare, pour ceux qui s'attendaient à rentrer dans le foot pur et dur tout de suite, mais c'est la base que je pose maintenant pour essayer de définir qu'est-ce que c'est que la beauté dans le football. Alors, parce que du coup, pour en avoir beaucoup discuté toute la journée, toute la nuit avec nos followers sur Twitter, et d'ailleurs je les remercie parce qu'on a eu des échanges qui étaient vraiment très intéressants sur le sujet, on s'est rendu compte qu'on était nombreux, et je pense que j'y sais, Samy, vous êtes comme moi, à trouver que le tiki-taka de Guardiola c'est très beau, mais à trouver aussi que le gegenpressing de Jurgen Klopp c'est très beau, qu'à trouver que l'abnégation de l'Atlético Madrid c'est très beau aussi. Et donc en fait oui, on se rend compte qu'il est possible de trouver beau à la fois un tacle 6 mètres pour empêcher une action de but de Samy face à je ne sais quel attaquant, et de trouver tout aussi beau un passement de jambe et une frappe en lucarne de Cristiano Ronaldo. Donc pour résumer tout ça, moi ce que j'aime bien souvent rappeler, c'est ce que disent les Sud-Américains pour définir le football. Ils disent le football c'est un sentiment, et c'est ça qui fait vibrer les foules, c'est ça qui nous emballe, c'est quand le football ne nous laisse pas neutre, c'est quand il provoque une émotion et un sentiment. Et comme on l'a vu, il y a beaucoup de styles qui provoquent ce sentiment et cette émotion là. D'ailleurs, quand on raisonne un petit peu d'une manière un petit peu simpliste, on pourrait couper court à la discussion et donc dire que la beauté en football c'est subjectif. Il y en a pour tous les goûts. On peut aimer la possession, on peut aimer le contre, on peut aimer les tacles, on peut aimer les dribbles. Il y en a pour tous les goûts. Mais justement, quand on se demande pourquoi on arrive à trouver de la beauté dans tous ces styles de football différents, comment on fait pour trouver de la beauté dans tous ces gestes de football différents, j'ai beaucoup réfléchi là-dessus et il m'est apparu trois traits d'union qui sont, à mon sens, les critères pour définir ce qu'est la beauté en football. Le premier critère, c'est la cohérence du projet de jeu. Pour simplifier, c'est avoir une idée précise, qui peut aussi bien être avoir la possession du ballon ou être regroupé derrière, mettre des coups et jouer en contre, mais pour que ça soit beau, il faut que ça soit cohérent, qu'il y ait une osmose collective qui embrasse le projet. Le deuxième critère, c'est le caractère. On trouve le football beau quand les joueurs montrent de la personnalité, quand le collectif dégage un certain caractère. Ça peut être une personnalité d'esthète, c'est-à-dire enchaîner les passes, vraiment voilà, être un petit peu artiste avec le ballon, être élégant. Ça peut être aussi une personnalité plus violente, mettre des coups, être se comporter comme une petite garce. Peu importe, ce qu'il faut, c'est que le collectif dégage du caractère. Ça, c'est le deuxième critère. Et le troisième critère, c'est l'harmonie. À savoir, ce que j'entends par l'harmonie, c'est quand le plan de jeu développé et la personnalité qui se dégage du collectif entrent en harmonie avec l'histoire du club, avec l'histoire d'une ville, avec l'histoire d'une région, avec l'histoire d'un peuple. Alors j'en reviens à ma définition que je donnais au début de Charles Baudelaire, du beau. La cohérence du projet de jeu et le caractère du collectif, ça c'est les facteurs invariables, indispensables pour qu'on puisse dire qu'un football est beau. Ça c'est donc le gin dans le tonic. Et le facteur contextuel, c'est ce critère d'harmonie. C'est quand le projet de jeu, le caractère et la personnalité de l'équipe rencontrent en fait le destin d'un club et le destin d'un peuple. Donc pour illustrer tout ça, j'aurais pu prendre le Barça ou l'Espagne qui sont les chantres du beau jeu, mais non, j'ai décidé de prendre l'Atlético Madrid, qu'on érige souvent en figure de proue du football moche mais qui gagne. Le style de l'Atlético, qu'est-ce que c'est? C'est un projet de jeu qui est cohérent. Premier critère. Parce que c'est un projet de jeu qui est ultra lisible, mis en place par des joueurs de caractère, avec un collectif qui a de la personnalité. Deuxième critère. Et tout ça, quand on regarde la cohérence et le caractère, donc ces facteurs invariables, ils rentrent en parfaite harmonie, le style de l'Atlético, c'est en parfaite harmonie avec l'histoire de ce club et l'histoire du quartier dans lequel est basé l'Atlético Madrid. L'histoire de ce club, qu'est-ce que c'est? Ça a toujours été un petit peu le club de losers magnifiques face à leur voisin royal du Real Madrid et dans le quartier un petit peu plus populaire que le quartier du Real Madrid. Donc ça fait pour ça qu'on trouve que l'Atlético c'est beau. C'est pas une question, c'est pas la possession, c'est pas le tiki-taka, mais il y a du caractère, il y a de la personnalité, il y a un projet de jeu qui est lisible et c'est surtout très cohérent et en harmonie avec l'histoire de ce club-là. On aurait pu faire le même exercice. Attends, je voulais plus. On aurait pu faire le même exercice avec l'équipe de France.
J'en mourrais d'envie. Pardonne-moi, je t'ai coupé, j'en mourrais d'envie depuis tout à l'heure.
Mais si c'est trop long, tu me l'as dit. Hein.
Mais pas du tout, c'est un trait d'humour.
C'est dur de reprendre là-dessus maintenant.
Je suis désolé, pardonne-moi.
On aurait pu faire le même exercice avec l'équipe de France, avec les Bleus de 2018. Parce que souvent on a dit bah les Bleus c'était moche mais ils ont gagné. Mais moi je suis pas d'accord. Les Bleus c'est une belle équipe. Pourquoi? Parce que ils ont un projet de jeu qui est certes simpliste, mais à savoir solide derrière et très rapide devant. Mais c'est un projet de jeu qui est cohérent. Premier critère. C'est un projet de jeu qui a été mis en place par des joueurs qui se sont révélés être des leaders et qui ont montré du caractère. Deuxième critère. Et c'est un projet de jeu et un caractère qui a été en harmonie avec l'histoire à l'instant T de notre pays et de sa génération, qui a été une génération qui a fait preuve elle aussi de beaucoup d'abnégation face à des événements assez tragiques ces dernières années. Donc pour conclure, moi ce que je voulais dire c'est que le beau en football, ça existe, mais arrêtons de le définir avec autant de paresse intellectuelle. Arrêtons de seulement dire que le beau football, c'est le tiki-taka. Ya, ça veut rien dire. C'est malhonnête. Le beau football, c'est aussi la maîtrise défensive. Le beau football, c'est aussi le combat. Le beau football, c'est plein de choses à la fois, tant que ces trois critères de cohérence, de personnalité et d'harmonie sont réunis.
Eh ben, j'ai pas grand chose à dire, si ce n'est que ce qui est créé par l'esprit est plus vivant que la matière. Moi aussi, je peux créer Baudelaire.
Ok.
Non voilà, c'était juste pour me
raconter. Non mais c'est bien.
Non mais y a aucun problème.
mais c'était très juste en plus.
Bravo en tout cas pour cet avis tranché. Samy, est-ce que tu as une ouais. réflexion? Appelez-nous au 32-16 évidemment pour réagir.
Ce que tu viens de dire est totalement vrai. Après, ce qui se passe dans le football, c'est que c'est tellement beau que tout le monde peut s'identifier. Ça veut dire que quelqu'un qui n'aime pas spécialement l'attaque et qui préfère la défense voit un super défenseur et dit ah ouais ça j'aime bien ce qu'il a fait. Donc
c'est bien de l'entendre ça.
Donc c'est vrai. Après tout ce que tu as dit au niveau de l'état d'esprit, l'équipe, la cohérence avec le projet, tout ça, on va dire que quand on a une équipe, c'est comme avoir un orchestre. Tous les joueurs jouent leur partition et il y a un chef d'orchestre qui est l'entraîneur. Au principe où tout le monde adhère à la chanson et au projet du chef d'orchestre, eh ben. Tout se déroule.
C'est exactement ça.
Parfaitement.
Et vous savez quoi? C'est à ce moment-là que je me dis que j'aurais dû faire des études.
Non, mais tu sais, Samy, par rapport à ce que tu dis, Samy, c'est exactement ça. Et ce qui fait vraiment que ça devient vraiment beau, c'est quand ce projet auquel tous les joueurs adhèrent, eh ben, il correspond, il est en harmonie avec l'ADN du club. Avec l'ADN d'un pays.
Ou l'identité, de toute façon. L'identité de la région ou de quoi qu'il en soit.
C'est super important et je trouve qu'on a tendance à le négliger. Parce que pourquoi l'Atlético, c'est beau? Parce qu'au final, parfois, quand ils jouent, c'est vrai que ça peut être un petit peu rudimentaire. Mais on leur en veut pas, on passe cet aspect-là parce que ça correspond avec leur histoire, ça correspond avec ce que ce club est, avec son ADN. Et ça, c'est vraiment beau. J'ai l'impression que parfois on oublie. Quand je vois des nations, par exemple nordiques, c'est peut-être simpliste, mais quand je les vois défendre comme ça, être rugueux, ben regarde, moi, ça me gêne pas, ça correspond à leur histoire.
C'est l'identité.
C'est vrai, c'est l'identité, c'est un choix.
Et c'est ça la beauté.
Mais c'est bien défendu
ce que tout le monde ne sait pas, c'est que le coach propose et c'est les joueurs qui choisissent. Ça veut dire que si tu as la possibilité de, suivant ton système de jeu, suivant l'identité que tu veux donner à tes joueurs, bien sûr, il faut trouver tes leaders, il faut trouver tout ça. Mais outre ça, c'est ce que tu vas leur proposer, c'est eux qui vont adhérer au projet et eux qui vont mettre le projet en jeu.
Est-ce que toi, quand tu coaches ton équipe, on sait que t'entraînes, est-ce que par exemple, t'as un impératif dans ta tête, tu dis il faut que ça joue bien, que ça soit beau, tu t'en fous, tu veux juste trouver ce qui correspond à ton
joueur. Il faut trouver un juste équilibre entre avoir son équipe. De toute façon, ils sont là pour prendre du plaisir à la base. Ils sont là pour prendre du plaisir. Le football, c'est un jeu, donc faut qu'ils prennent du plaisir, tout en ayant une obligation de résultat quand même, forcément, puisque c'est une compétition. Alors on essaie de mettre un système de jeu en place. Comme je t'ai dit, on essaie de trouver de voir les joueurs qui a à tel poste ou tel poste pour définir ton système de jeu. Parce que si t'as un système de jeu, tu veux jouer en 4-3-3 et t'as pas les joueurs pour pouvoir jouer en 4-3-3, tu peux pas le mettre en place ton système de jeu. Donc tu t'adaptes à ton groupe, forcément. Tu vois par rapport au groupe de joueurs que t'as, t'essaies d'adapter ton système de jeu par rapport au groupe que t'as, et de là vous définissez quelque chose ensemble.
Messieurs, je suis obligé de vous couper avec cette discussion très intéressante.
C'est parce que ça parle de football, de beau football.
C'est très intéressant. Je sais pas ce qu'on vous donne à la cantine, mais c'est très intéressant.
Et des lentilles du poulet, je te l'ai dit.
Mais Mehdi nous appelle car il n'est pas d'accord avec Jonathan McCarty. La contradiction, c'est tout de suite. Bonsoir Mehdi.
Bonsoir tout le monde.
Bonsoir. Salut Mehdi.
Pourquoi tu n'es pas d'accord?
Bah, oui,
on
nickel.
Très bien.
Nickel.
Ah, super. Bah, alors en fait, non, c'est un petit peu étrange parce que au départ, t'as commencé, à mon sens, super mal, Jonathan, c'est ça? Ouais. Et donc du coup j'ai bondi, j'ai appelé, je me suis plaint de ce que tu disais. Et en fait quand on m'a dit bon bah écoute tu vas passer, j'ai entendu la fin. Et sur la fin j'étais plus ou moins d'accord avec toi. Mais
synthèse mon pote.
Exactement, bien joué. À la base, ce pourquoi justement j'ai pris mon téléphone pour t'appeler, c'était justement pour dire une chose toute simple. Quand on parle de beau jeu, forcément oui. À la fin tu l'as dit, hein, tu as bien fait. Tu dis ouais on repart sur ce principe de petit. se passe tiki-taka, que d'ailleurs Guardiola n'appelle pas ça du tiki-taka.
Oui, 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 c'est vrai, en plus.
Il est justement à l'antipode du tiki-taka, mais enfin bref. Et ben bref, moi ce qui m'attire, moi ce qui me plaît dans l'expression du beau jeu, c'est le fait de que tout le monde recherche quelque chose au même moment. On pense tous à la même chose.
La
au
cohérence.
Même moment. La cohérence collective, c'est la ça. Pensée commune, la pensée collective.
C'est un des critères que j'ai établi, ouais, c'est ça.
Voilà, et ben ce sur quoi les gens travaillent. Et en fait, pour moi, le beau jeu, c'est quoi? C'est avoir l'outil technique pour tout simplement mettre en place l'expression d'une belle idée collective. Et ça, à partir de là, moi, quand on est sur ça, vu que tu sois en attaque rapide, que tu sois en jeu de possession, eh ben, si tu pars du principe que tu vas faire que de la possession, si tu pars du principe que tu vas faire que de l'attaque rapide, pour moi, t'es dans l'excès. Tu n'es plus dans un vrai beau jeu. T'es tout simplement dans un excès. Et là, on rentre plus trop dans ce qui me plaît. Tu prends, par exemple, l'équipe de France, par moment, alors que je n'aime pas du tout ce football, mais par moment, dans leurs attaques, tu voyais qu'il y avait quand même quelque chose de commun. Parfois. Et je le reconnais.
Même
hein.
Dans l'organisation de l'équipe, Mehdi.
Mais c'est travaillé, de toute façon. Hein.
Tu reconnais.
Les déplacements sur les côtés, défensivement, voilà. La manière dont on était toujours exactement. En surnombre sur les côtés, ça s'est travaillé. Ça correspond à la cohérence du projet de jeu, ouais.
On est d'accord. Mais alors bon, alors ça va être un autre débat. Est-ce qu'on est d'accord ou pas de vouloir avoir une équipe taillée uniquement pour faire ça? Bon, ça me regarde. Je ne suis pas d'accord. Mais par contre, on peut reconnaître que si c'est ça pour eux bien joué, alors ils l'ont très bien fait. Voilà. Mais par exemple, à Croatie, oui, tout le monde, parce que j'entendais tout le monde me dire, et j'ai eu des débats, parce que moi je suis aussi éducateur dans un club, j'étais à Créteil d'ailleurs, Samy Traoré, j'ai entraîné ton fils, je ne dirai pas son nom, mais je ne sais pas si tu te souviens,
il se souvient de son fils, j'ai tiens pour lui.
Bah, quand même.
Bah, on connaît son passé de séducteur, donc on
sait peut-être pas. Mais qui a entraîné ton fils, est-ce que tu remets ou pas?
L'ailier gauche qui définit latéral.
Et ouais, il joue latéral maintenant.
Tu veux régler des problèmes avec
non, pas du tout.
Il a coaché ton fils.
Tu dois être un bon entraîneur puisqu'il a eu que des bons entraîneurs à Créteil, donc forcément.
Ah bah écoute, ça fait plaisir. Bon, enfin quoi qu'il en soit, j'ai perdu le fil. Ouais, voilà. J'entendais tout le monde ici et là. J'avais des débats avec des mecs qui me disaient non, le beau jeu, c'est pas comme ça qu'on gagne. Moi, je pense que déjà, faut savoir c'est quoi ton propre beau jeu. Moi, on me dit la Croatie n'a pas battu la France parce que bon, le beau jeu, non, dans son style, la Croatie n'a pas assez bien joué. Mais dans son style, la France a très bien joué.
Ouais.
Et ben voilà. À partir de là, on peut être d'accord. Mais le beau jeu, c'est subjectif. Mais pour moi, sur la chose sur laquelle on peut tous être d'accord, c'est à partir du moment où ça déborde de collectif, où tu ressens qu'il y a une équipe qui est en train de s'éclater. Et ça, c'est un truc qu'on ne peut pas. Il n'y a pas de couleur, ça ne s'explique pas. C'est pas palpable. C'est pas.
Bien sûr.
On ne peut pas le quantifier.
Et ben c'est beau.
Et ben à partir de là, tu ressens quelque chose et tu t'éclates et à partir de là, c'est du football.
Merci beaucoup Mehdi d'avoir réagi au
30 secondes. C'est très intéressant Mehdi.
La dernière phrase, vraiment, je l'ai trouvé top. Hein. Continue comme ça à coacher les pitchouns.
Écoutez, y a pas de souci. Moi, je suis en U19 maintenant, je suis pas trop loin. Ah
bah, c'est bien.
Oui, des grands pitchouns alors. Merci
ciao,
beaucoup Mehdi et à bientôt.
Allez,
au 32-16. Et je voudrais clore ce débat en disant que le beau est toujours bizarre. Voilà, c'est du Baudelaire ce soir dans l'After. On a peur de rien et dans quelques instants, Clément Grenier.
On a déjà cité Michel Foucault, tu sais, hein.
Celui qui veut gagner des millions.
Oh.
Allez, oui, il va falloir remettre un petit peu d'esprit de foot dans cette émission, hein, dis donc.
C'est l'After.
Bah, c'est l'After. Dans quelques instants, nous serons avec Clément Grenier, l'invité de l'After.
Ça, c'est
il
du
nous
beau
dira
football aussi.
Pourquoi il a choisi le Stade Rennais. Sachez qu'hier, il était sur RMC. Donc là, on a d'autres questions à lui poser. Un peu plus poussées, un peu plus perfides, un peu plus méchantes. Clément, à tout de suite.
RMC, le super football show, l'Afterfoot, Jean-Christophe Drouet.
Jonathan McCarty avec Samy Traoré, vous le savez, au mois de juillet, l'After. On vous donne rendez-vous de 21h à 23h pour ne rien manquer de l'actualité du foot, des avis tranchés. C'était il y a quelques instants, avis tranché sur le FC Barcelone concernant Samy Traoré, avis tranché sur le beau jeu signé Jonathan McCarty. Évidemment, appelez-nous, venez réagir au 32-16. Nous allons maintenant parler quasiment intégralement de Mercato. Clément Grenier s'est engagé officiellement hier avec le Stade Rennais. L'international français de 27 ans a signé un contrat de 3 ans et il est ce soir, il a la permission de minuit dans l'After. Clément Grenier, bonsoir.
Bonsoir tout le monde.
Salut.
Clément, salut. Avant de vous écouter, avant de vous poser plein de questions, parce qu'on a plein de choses à vous demander, est-ce que vous avez entendu l'avis tranché de Jonathan McCarty sur le beau jeu, la dictature du beau jeu?
Non, malheureusement, je suis arrivé un peu trop tard à l'antenne.
Eh ben, vous avez bien eu raison, Clément Grenier. On vous donnera la cassette, vous allez voir, ça dure 3 quarts d'heure. Alors, je sais, Clément, que vous étiez hier sur RMC, donc ce soir, évidemment, vous allez devoir répondre à d'autres questions, des questions peut-être plus fracassantes, les questions sérieuses de l'after. Est-ce que vous êtes prêt à cet exercice? Est-ce que vous êtes préparé, Clément?
Aucun problème.
Ok, alors Clément Grenier, on va débuter avec la première question. Vous venez de quitter un club habitué du ventre mou de Ligue 1, Guingamp, pour atterrir à Rennes. Est-ce que c'est pour terminer 7e du championnat?
Je sais pas. En tout cas, moi, en venant à Rennes, j'ai écouté un discours d'un président humble mais ambitieux, un discours d'un coach également humble et ambitieux, avec une envie forte de pratiquer un football qui me représente aussi, un football offensif avec des aspects techniques et aussi tactiques forts. Donc voilà, je crois qu'ils ont fait une deuxième partie de saison excellente. On va espérer pouvoir réaliser cette deuxième partie de saison sur une saison complète et voilà, ce serait en tout cas une belle saison. En tout cas, j'ai signé pour cela.
Il flanche pas, Clément Grenier, incroyable. Hein. Question tout de suite, punchy, je rentre dedans, pro, il nous parle du projet, tout ça. Une question sur le stade rennais, Jonathan Macardy.
Salut Clément, écoute, je voulais savoir qu'est-ce que t'avais en termes d'objectifs personnels, toi, pour cette saison. On sait que t'as parlé de l'équipe de France hier, en passant sur nos antennes déjà. En termes de rendement, en termes de position, est-ce que tu sais où tu vas jouer? Est-ce que t'as une ligne statistique que t'aimerais atteindre?
J'ai discuté un petit peu avec le coach, évidemment, en amont. Voilà, je vais jouer dans un profil qui me correspond, un profil de relayeur, milieu offensif, qui peut être aussi derrière l'attaquant. Je suis pas un joueur de statistiques, j'aime pas ça. Je crois que avant tout, il faut avoir un vrai esprit et un vrai regard collectif ensemble et aller au même endroit tous ensemble. À partir du moment où on a cet esprit-là et qu'on a envie de gagner ensemble, on est tous récompensés individuellement. On peut arriver à faire des stats, on peut avoir de la réussite, on peut avoir un manque de réussite à être performant dans le match. Donc je crois, voilà, faut pas s'arrêter qu'à des statistiques. Évidemment, on a tous des objectifs individuels, j'en ai aussi, mais avant tout, pour moi, les objectifs sont le plus important, c'est collectivement. Évidemment, qu'en restant en France, qu'en jouant la Coupe d'Europe, c'était un projet qui me donnait envie aussi. Il faut être performant en championnat pour être performant en Coupe d'Europe de toute façon. Donc, je crois que on a des échéances à venir importantes collectivement. Évidemment, comme je dis, voilà, de rester en France me permet d'avoir aussi une visibilité, un championnat que je connais. Et je me ferme pas la porte à l'équipe de France parce que je l'ai connu, ça donne envie. On fait compétition magnifique en ramenant la coupe chez nous, donc ça donne encore plus envie.
Bien sûr,
on a vu qu'ils avaient un collectif fort avec un état d'esprit et une envie d'aller tous ensemble au même endroit. Donc voilà, évidemment que pour moi, l'équipe de France, c'est dans un coin de ma tête. Mais avant ça, je pense qu'il faut être dans la continuité de mes 6 mois à Guingamp avec un club qui va jouer régulièrement tous les 3 jours, voilà, avec une ambition autre et ça me plaît. Voilà.
Clément Grenier est dans l'after. Nous sommes avec Clément, un petit jeune qui débute. Samy Traoré qui a une question pour vous.
Bonsoir Clément, ça va?
Salut Samy, ça va.
Non, déjà félicitations à toi déjà premièrement.
Merci.
Après, la question que je me posais, c'est un joueur, je me permets, de ta trempe quand même, qui a connu ses heures lyonnaises, qui a connu ce haut niveau. Est-ce que l'Europe pour toi c'est pas un peu petit? C'était l'UEFA.
Écoute, je crois que tu connais le foot aussi, hein. Il y a des hauts, il y a des bas, il y a des bons moments, il y a des moments un peu plus difficiles. Je crois que d'où je viens, avec des moments difficiles à Lyon où j'ai pas eu ma chance sur la fin. Voilà, j'ai pris les devants, je me suis lancé à Paris d'aller dans un club un petit peu plus, on va dire, voilà, du monde du ventre mou, un peu plus humble, qui était Guingamp. Voilà, je crois qu'en 6 mois, j'ai fait de très bonnes choses, j'ai eu des statistiques, effectivement. Et aujourd'hui, voilà, plutôt que de prendre un nouveau risque, peut-être d'aller à l'étranger, dans un championnat que je ne connais peut-être un peu moins, je me suis dit que j'aimerais bien faire une saison complète dans un club et dans un pays que je connais. J'ai eu la chance d'avoir un super discours des Rennais avec beaucoup d'ambition aussi, parce que voilà, il en faut. Je suis ambitieux et je le cache pas, j'ai beaucoup d'objectifs. Donc évidemment, on a tous envie de jouer le championnat d'Europe, on a tous envie de la Ligue des Champions. Mais peut-être que j'ai besoin 6 mois d'une étape supplémentaire. Et pour moi, c'est un
nouveau
challenge.
T'as encore le temps en plus, Clément. T'as 27 ans, c'est pas...
Voilà, j'ai pas mal d'expérience. C'est vrai que ça fait 10 ans que je suis professionnel, mais malgré tout, voilà, j'ai eu des super moments, des moments un peu plus difficiles, et là j'ai pu remonter la pente, et tous ces moments-là sont derrière moi, et je crois que c'est un nouveau départ et de nouveaux défis à me lancer, et j'espère pourquoi pas très rapidement retrouver la Ligue des Champions à un moment donné. Mais voilà, je crois que le projet, encore une fois, j'insiste là-dessus,
c'est cohérent.
Un coach qui connaît le haut niveau, qui a joué au niveau, qui connaît aussi la Coupe d'Europe, les championnats étrangers, donc je crois qu'il apporte aussi toutes ces choses-là, toute son expérience. Et voilà, je me sens très bien physiquement, très heureux d'arriver ici, et j'ai hâte de commencer le championnat dès le 9 août.
Clément Grenier est dans l'after. Clément, vous savez que la Ligue Europa, la Ligue des Champions aussi, c'est en exclusivité sur RMC Sport. Est-ce que vous pouvez nous garantir que vous allez la jouer à fond, cette Ligue Europa?
Oui, je crois que depuis un certain temps, toutes les équipes la jouent à fond, et on se rend compte que c'est une compétition qui est aussi très compliquée. Par le passé, peut-être que certaines équipes passaient à côté ou laissaient filer quelques matchs parce que c'était difficile, et effectivement c'est difficile de jouer tous les trois jours, mais je crois que quand on a la chance de jouer la Coupe d'Europe et qu'on est compétiteur, on a envie de gagner tous les matchs. Après, on sait que c'est une compétition qui est très très compliquée, mais on a une équipe jeune, mais avec beaucoup de talent et aussi beaucoup d'insouciance, donc j'espère que ça va être un bon mélange pour pouvoir faire le maximum dans cette compétition. Mais comme j'ai dit auparavant, avec les séances, on sait qu'il faut être aussi très performant en championnat et prêt pour affronter ces matchs européens. Donc je crois que les échéances avant la Coupe d'Europe sont aussi importantes que ce premier match de Coupe d'Europe qui arrivera, je crois, mi-septembre ou un peu après.
Une carrière de consultant s'offre après pour Clément Grenier, qui parle hyper bien. C'est un bonheur de vous entendre. Merci d'être là dans l'after. Une question après j'aurai une question un peu plus méchante, Clément. Une question de Jonathan McCarthy.
Clément, écoute, donc je te dis, on l'a dit, t'as 27 ans, t'as encore tout le temps devant toi, mais il est vrai que t'as quand même perdu quelques saisons, notamment sur la fin à Lyon. Et moi, j'aimerais te poser deux questions. La première, c'est comment t'as vécu cette fin d'histoire lyonnaise. On sait que c'était ton club de cœur, c'est là où t'as été formé. On sait que ça s'est peut-être pas forcément hyper bien fini. Et la deuxième question, c'est qu'est-ce que tu réponds à tous ces gens qui te donnent cette réputation d'être un joueur fragile et pas forcément sérieux?
Je suis passé
c'est
autre chose.
Le bon moment pour adresser le...
Ouais, non, je suis passé à autre chose. C'était des moments merveilleux. Je retiendrai que les bons moments avec l'Olympique Lyonnais. C'est mon club formateur. J'arrive à l'âge de 11 ans. Je suis parti à 26, 27 même. Donc pour moi, c'est que des bons moments. Évidemment, on n'a pas toujours été d'accord sur la fin. On n'a pas toujours été franc, mais voilà, c'est comme ça, on apprend dans le football. De toute façon, il n'y a pas de sentiments, on s'en rend compte de plus en plus. Voilà, je suis passé à autre chose, et j'ai montré à tout le monde que moi, ce qui m'importait, c'était comme disait mon père à l'époque, le rectangle vert. Donc voilà, je crois que moi, ma vie, elle est sur le terrain, sur un terrain de football, et j'avais pas envie de répondre ni dans la presse ni dans autre chose. Je voulais simplement répondre sur le terrain, et je pense qu'en ayant fait ce choix de vouloir jouer, d'être un amoureux du football comme je suis, de partir à Guingamp, c'était quand même risqué. Tout le monde n'aurait peut-être pas pris ce risque. Moi, l'ai pris, et ça a fonctionné grâce aussi au coach Comboiré, qui m'a énormément fait confiance et qui savait ce que j'allais pouvoir lui apporter. Donc voilà, on a réussi ce pari tous les deux, et aujourd'hui j'ai la chance de pouvoir rejouer la Coupe d'Europe dans un club avec des ambitions, et voilà, et j'ai entre guillemets que 27 ans, donc pour moi j'ai encore beaucoup de choses, et peut-être que ces deux années où ça a été plus compliqué, elles me permettront de durer encore un peu plus longtemps.
Mais justement, Clément, vous êtes un amoureux du beau jeu, en plus votre élégance sur un terrain, vous pouvez pas aller en équipe de France?
Après, je suis capable. Je crois qu'après, il faut savoir gagner. C'est le plus important, parce qu'avant de bien jouer, il faut avoir envie de gagner. On est tous des compétiteurs. Moi, gagner une Coupe du Monde de la façon dont ils ont joué, j'ai trouvé ça énorme, parce qu'il y a eu beaucoup de sacrifices. Beaucoup de joueurs ont été un petit peu contre nature, et ils ont été obligés de faire des efforts pour l'équipe parce qu'ils avaient le même état d'esprit. Donc voilà. Après, un joueur qui aime le football, mais je pense que j'ai pu montrer aussi à Guingamp que j'étais quelqu'un qui aimait aussi se battre pour l'équipe et se sacrifier. Donc voilà, évidemment, quand on peut se sacrifier et bien jouer au football, c'est encore mieux. Mais la finalité, c'est de gagner.
Et on peut ajouter que quand tu dis que t'es un amoureux du football, c'est vrai, parce que c'était à la fin, t'as été à Guingamp en étant à 6 mois de la fin de ton contrat. Donc t'aurais pu attendre sagement d'attendre la fin de ton contrat à Lyon et de voir ce qui se passait.
Ouais, mais ça c'est.
Et toi, tu voulais, enfin, c'était jouer.
Non, moi, voilà, tout à fait. Moi, ce que je voulais, c'est jouer. Et puis, quand je suis rentré de Rome en début de saison, j'avais proposé au club de prolonger d'un an, et que si ça fonctionnait, comme ça, ils auraient pu toucher une indemnité, parce que moi, voilà, c'est mon club formateur. J'ai toujours été, comment dirais-je,
c'est rare, hein,
très, voilà, avec
reconnaissant.
J'ai beaucoup d'amour, reconnaissant, malgré tout ce qui s'est passé, mais j'ai beaucoup d'amour pour ce club-là. Donc voilà, j'avais proposé ce deal-là en disant, bon, bah voilà, prolongez-moi d'un an, baissez-moi mon salaire si vous le souhaitez, il n'y a aucun problème. Mais moi, je veux jouer au football, et puis si ça fonctionne, et ben à la fin de la saison, je partirai comme c'est voulu, et puis tout le monde sera gagnant. Malheureusement, ça n'a pas été accepté. Moi, je pensais quand même pouvoir arriver, grâce à mes entraînements, pouvoir gratter un petit peu de temps de jeu. Malheureusement, ça n'a pas fonctionné. Et puis après, au bout de 6 mois, je me suis dit, je peux pas rester là parce que ça va être trop compliqué pour moi. Donc, j'avais qu'une envie, c'était de partir pour jouer au football. Et encore une fois, je crois que cette envie-là, malgré tout, et ben, elle a pris le dessus. Et aujourd'hui, bah, je suis très heureux parce que c'était encore une fois un bon choix de la part de mon staff, de mon entourage, on va dire, et de moi-même, évidemment.
Merci Clément Grenier, merci pour ce discours. Yes. Impiégeable Clément, il reste droit dans ses bottes, il sait ce qu'il va dire. Clément, juste pour vous je vais tenter de le mettre dans ses cordes, Clément. Je vais tenter, hein. Clément, est-ce que vous avez décidé d'aller à Rennes pour ne pas garnir votre palmarès?
Comment?
Est-ce que vous avez décidé d'aller à Rennes pour ne pas garnir le palmarès?
On sait qu'en Ligue 1 c'est très compliqué. Il y a des coupes qui peuvent être avec des concours de circonstances peuvent être remportés, donc on sait jamais ce qui peut arriver. Après, je crois que c'est, encore une fois, le plus important, c'est d'avoir un projet collectif, et après, si on a de bonnes surprises au bout, c'est encore mieux.
Mais on peut pas le piéger. Merci beaucoup, Clément Grenier. C'était un plaisir, en tout cas, de vous avoir dans l'after, et on vous souhaite une très belle saison, évidemment. Ça a bien cartonné avec Guingamp, 5 passes décisives, 5 buts. On espère qu'il y aura au moins autant de belles choses pour vous. Et en tout cas, c'était un bonheur de vous avoir ce soir.
Merci beaucoup.
Merci Clément, et à bientôt. Nous, on se retrouve dans quelques instants pour la suite de l'after. C'est vrai qu'on a passé du temps avec Clément, mais c'était très intéressant. Donc, quelques instants à parler de l'AS Monaco. À tout de suite sur RMC.
RMC, le super football show, l'After Foot.